Avant de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions nous incliner et invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence dans ce lieu. Nous la reconnaissons comme véritable parce que ta parole nous le dit. Merci parce que tu vas encore nous parler, tu nous as déjà parlé au travers de ces cantiques, au travers de ces chants. Oui Seigneur, quel privilège d'avoir cette paix que tu veux nous donner, que tu veux donner encore cet après-midi. Veuille bénir maintenant ta parole par ton Saint-Esprit, qu'elle puisse être portée, semée d'une manière qui nous dépasse, mais qu'elle puisse produire un fruit. Un fruit qui va germer, va être là, dispensé pour la vie éternelle. Nous te le demandons maintenant de conduire ces instants, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Marc au chapitre 5. Quel privilège de connaître Jésus-Christ. Je pense que cet après-midi, plusieurs d'entre nous pouvons témoigner de cela. Et comme l'a rappelé, l'a dit notre frère, notre prière, c'est que tous puissent expérimenter cela. Marc chapitre 5, nous allons lire les 20 premiers versets, c'est un texte que nous connaissons. Nous lisons, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avaient été liés de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, rentrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui s'était passé, à ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. C'est un texte qui peut être surprenant si nous le lisons pour la première fois. Toujours est-il que c'est un texte qui relate l'amour extraordinaire de Jésus-Christ. Ce même amour qu'il veut manifester cet après-midi. Ce texte arrive de suite après, ceux qui sont accoutumés à lire la parole de Dieu le savent, arrive de suite après ce miracle extraordinaire, ou alors, comme nous avons lu que Jésus et ses disciples arrivent de l'autre bord, ça veut dire qu'ils ont pris le bateau et qu'ils ont traversé la mer. Et alors qu'ils traversent la mer, il y a une tempête, les disciples sont perdus, on connaît plus ou moins ce passage, et Jésus va calmer la tempête. Jésus va calmer la tempête, et ils arrivent à l'autre bord. Vous savez, ce jour-là, Jésus va rencontrer quelques personnes, mais en particulier cette personne. On ne connaît pas son nom, son prénom. Il est écrit « la personne qui avait été démoniaque, le démoniaque ». Voilà comment la Bible le résume. Mais Jésus, lui, est venu ce jour-ci spécialement pour lui, pour cet homme. La tempête, si j'ose dire, cet après-midi, peu importe. Parce que beaucoup de personnes qui ont rencontré Jésus-Christ cet après-midi pourraient se lever et dire « effectivement, j'ai eu besoin d'une tempête pour venir, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ ». Ce qui nous arrive dans notre vie, si j'ose dire, et ne le prenez pas d'une mauvaise manière, mais peu importe, ce qui compte, c'est le mot de la parole de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, c'est aujourd'hui. On ne sait pas, on ne vous connaît pas. Pourquoi vous êtes là? Notre frère l'a dit, cette question qui est tellement importante. Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu entendre? Mais Dieu voit nos cœurs. Il sait ce que nous avons traversé. Il sait si juste avant de venir, il y a eu une tempête, une tornade dans notre vie. Il sait si on a eu des difficultés. Il sait si l'on est triste. Il connaît chaque recoin, chaque détail de notre vie. Mais ce qui compte, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est cette réunion. Qu'est-ce que nous allons faire de ces chants que nous avons entendus, que vous avez peut-être chantés? Qu'est-ce que nous faisons de la prédication de l'Évangile, de la parole de Dieu? Est-ce que nous allons laisser notre cœur s'ouvrir à l'amour de Dieu? Ou est-ce que nous allons continuer, passer notre chemin? C'est une question qui est là et qui est toujours en fond dans notre vie. Jésus avait donné, était présent pour ce rendez-vous divin. Et de la même manière, laissez-moi vous dire que Jésus est présent dans ce lieu parce qu'il désire intervenir. Il désire changer l'existence d'une vie. Lorsque la chorale prenait ce chant, dans la misère la plus profonde, guidée par les passions, je pensais à ce témoignage, à cet homme qui avait, et il pouvait l'expliquer ainsi, tout ce qu'il voulait dans sa vie. Une carrière professionnelle, il s'était donné un seul objectif dans sa vie parce qu'il a eu un contexte, il a été élevé dans le besoin, dans le manque. La seule chose qu'il s'est dit dans sa vie, c'est « je veux avoir un bon travail où je vais gagner beaucoup d'argent ». C'était cela son objectif dans sa vie. Et il a fait. Il a eu un travail avec de grosses responsabilités. Il gagnait beaucoup d'argent, il a voyagé dans tous les pays du monde. Il allait dans les hôtels les plus luxueux. D'un point de vue sentimental, affectif, sa vie, c'était une hécatombe. Dans chaque pays, il rencontrait de nouvelles personnes. Aucun attachement, aucune possibilité pour lui de s'arrêter, de s'attacher, de donner de l'amour, parce qu'il n'avait pas d'amour. Un jour, il va arriver dans sa vie à un point culminant où il va se poser des questions, il va être dans une fracture personnelle, il va entendre l'Évangile, il va y avoir un bouleversement, les passions qui étaient là dans sa vie, ce qui s'était monté comme étant les choses les plus importantes dans son existence, tout va être balayé par l'amour de Jésus-Christ. Quand on rencontre celui qui est l'auteur de l'amour, ça change notre vie. C'est cela qui peut faire la différence cet après-midi. C'est pas d'être là, d'être assis, d'écouter quelqu'un parler, d'écouter des chants, mais c'est de rencontrer celui qui est vivant. Et cet homme qui avait connu les plus beaux hôtels du monde, cet homme qui pourra rendre ce témoignage qu'il avait tout ce qu'il voulait, lorsqu'il va se convertir, va aller voir son pasteur et va lui dire « Mais voilà, pasteur, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et son pasteur va lui dire « Mais prends le balai et passe le balai dans l'église. » Et le témoignage de cet homme qui toute sa vie parcourait la terre pour satisfaire ses propres passions, ses propres désirs, à la recherche, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on veuille l'admettre ou ne pas l'admettre, l'être humain cherche des réponses à pourquoi il est là. L'être humain cherche de quoi remplir ce vide en lui. Et cet homme passait le balai. Et il rendra ce témoignage qu'à ce moment précis où il était seul dans l'église en passant le balai, il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Il n'avait jamais été rempli de cette paix qu'il avait pourtant essayé d'obtenir. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui peut bouleverser votre vie. Jésus-Christ, c'est celui qui peut-être permet certaines tempêtes dans votre vie, mais aussi capable de calmer les tempêtes pour venir jusqu'à vous de l'autre bord, vous attendre, pour vous parler, pour prendre le temps. Pour prendre le temps d'avoir un entretien avec vous, un entretien divin, où il n'est pas là pour faire des reproches. Lorsque Jésus-Christ est arrivé à rencontrer cet homme, ce n'était pas pour lui dire « Mais voilà, qu'est-ce que tu fais? Ta vie est misérable. » L'Évangile, ce n'est pas ça. L'amour de Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Mais c'est de nous prendre là où nous sommes pour nous restaurer, pour nous bénir, pour nous accorder, pour nous offrir le pardon. Parce que nous avons besoin d'être pardonnés. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de la présence de Dieu. Cet après-midi, il n'y a pas un juste. Mais il y a des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont rencontré Jésus-Christ d'une manière personnelle. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela qui peut faire voir les choses d'une manière différente. Dans la parole de Dieu, j'ai trouvé, c'est un psaume qui m'a marqué pendant cette semaine. Et on pourrait dire, c'est un psaume de David, on pourrait dire, je l'ai partagé vendredi soir, mais je ne pouvais pas passer au travers de ce psaume, je ne sais pas pourquoi, peut-être, et je pense que c'est pour quelqu'un cet après-midi. On pourrait dire que ce psaume que David a écrit il y a de ça des centaines et des centaines d'années, c'est la photographie de cet homme qui était pris, qui était lié, peut-être pas par des chaînes, peut-être pas par des choses visibles, mais combien de personnes peuvent rendre ce témoignage, peuvent dire, mais moi, je suis lié, je suis captif, je suis emprisonné, c'est pas les chaînes qui m'emprisonnent, mais c'est mon angoisse. C'est pas ceci ou cela, mais c'est ma dépression, c'est mon malheur, c'est ma tristesse, c'est ma recherche de vie, c'est ma recherche de sens. Combien de personnes peuvent être là, repliées sur elles-mêmes parce qu'elles recherchent à cette question, la réponse à cette question, mais pourquoi est-ce que je suis sur terre? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de ma vie? Et on peut peut-être le lire ensemble. C'est le psaume 143. On va lire juste quelques versets. Psaume 143, verset 3 nous dit « L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » Le verset 6 nous dit « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi. » Comme une terre desséchée. Cet homme, vous savez, personne ne faisait attention à lui. Tous savaient qu'il était démoniaque. Tous savaient qu'il y avait un problème dans sa vie. Tous savaient que cet homme, il ne fallait pas le fréquenter. Il ne fallait pas aller le voir. Tous peut-être le mettaient à l'écart. Tous le critiquaient. Tous disaient du mal de cet homme. Mais pour Jésus-Christ, ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent de nous. Ce n'est pas même nous-mêmes, la valeur que nous pouvons nous donner dans notre vie. Combien de personnes se rabaissent, se dénigrent en disant « Mais ma vie n'est rien du tout. Ma vie, je n'ai pas d'espoir, je suis fini. » Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas ainsi. Cet homme pourrait dire « Celui qui demeurait dans les sépulcres, celui pour lequel sa vie, son quotidien se résumait à dire « Nuit et jour, je suis dans des tombeaux. Nuit et jour, je suis plus proche de la mort que de la vie. Nuit et jour, j'espère tellement, mais rien ne vient. Mon âme est foulée à terre toute ma vie. Ma vie est piétinée par le péché. Ma vie est piétinée par ce que j'ai pu mettre en place par mes propres choix, mes propres directions. » Je suis comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Je vis dans un sépulcre, je suis vivant. On pourrait dire cet après-midi. Et Laissez-moi vous dire que je l'ai vécu d'une manière personnelle. On peut être dans une foule, on peut être le bout en train d'un groupe d'amis, on peut rigoler, blaguer tout le temps. Les autres peuvent même venir nous voir pour qu'on puisse leur remonter le moral. Mais au-delà de tout ça, si les autres, si les plus proches, nos familles, ceux qui sont les plus proches de nous, pouvaient lire dans notre cœur, lire dans notre âme, peut-être qu'ils verraient cette réalité. Ma vie ressemble à ceux qui sont morts depuis longtemps. J'ai plus d'espoir, j'ai plus d'espérance. Il n'y a plus rien dans ma vie. L'ennemi fout la terre, ma vie. Je suis comme piétiné. Je n'arrive plus à m'en sortir. Ma vie est sec. Et si aujourd'hui, si cet après-midi, on arrêtait là, je fermerai la Bible et je dirai voilà, merci Seigneur pour ces instants. Ça serait dramatique. Ça serait dramatique. Parce qu'il n'y aurait plus d'espoir, plus de possibilité pour une vie, pour quelqu'un, de pouvoir rencontrer le Sauveur. Cet homme va faire quelque chose qui peut-être doit faire écho dans un cœur, chez une personne cet après-midi, parce qu'on le sait, je ne vais pas revenir sur tout cela, cet homme qui était isolé lorsqu'il va voir Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il va accourir vers Jésus. Il va accourir et se prosterner devant lui. C'est ce que ce psaume nous dit, la deuxième partie du verset 8. « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Cet homme va saisir, lui qui peut-être tous les jours se disait « Mais quand est-ce que ça va arrêter ?» Cet homme a saisi que ce jour-là, à ce moment-là, ce Jésus-Christ qui avait été critiqué par les hommes religieux, ce Jésus-Christ qui avait été mis de côté, qu'on avait refusé dans certains endroits, ce Jésus-Christ, lui, il pouvait l'accepter. Ce Jésus-Christ, lui, il le voulait pour sa propre vie. Et c'est ça qui est important. Pour toi, mon ami, toi qui es là peut-être pour la première fois, les premières fois, tu viens ici, tu te poses des questions. Ce qui est important, c'est que tu puisses expérimenter cette prière, courir vers Jésus. Mais quel est le chemin où je dois marcher? Dans quelle direction aller? Où je dois aller pour avoir le pardon de mes péchés? Pour saisir ce qu'est la véritable vie? Et laissez-moi vous dire que si vous faites cette prière, il n'en peut pas être autrement que Jésus-Christ vous réponde. Parce que Jésus-Christ pourra dire, mais je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cet homme démoniaque va comprendre à ce moment-là précis. Il y a des moments, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dans une vie, dans votre vie, des périodes de temps où on saisit, on ne pourrait pas l'expliquer. Mais on comprend que ce qu'on est en train de faire aura des répercussions, des moments tellement importants. Bien sûr, on prend souvent l'exemple du mariage, et il y a tellement d'autres exemples dans une vie. On choisit d'avoir un enfant, on choisit ceci, cela, on choisit une carrière professionnelle, et on sait que ces choix vont avoir un impact, qu'on le veuille ou non, pour toute notre vie. Pour toute notre vie. Je me rappelle de ce frère, il le disait en rigolant, ne vous inquiétez pas. Son épouse et ma femme sont tombées enceintes en même temps. Elles ont accouché en même temps, quasiment. Et on échangeait sur le fait d'être parent, d'être père. Et il m'a dit, mais c'est pire qu'un crédit, parce qu'on l'a pour toute notre vie. C'est pire qu'un crédit. Mais il y a des choix. Il y a des choix qu'on fait, laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pour l'éternité. Et cet après-midi, ce qu'on peut vous dire, peut-être maladroitement, je ne sais pas, c'est préoccupez-vous de votre âme, préoccupez-vous de l'éternité. Ne pensez pas en vous-même que vous avez trop péché, que c'est fini pour vous, que Jésus ne peut plus rien faire pour vous. Fais-moi connaître le chemin. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Montre-moi la direction. Et cette seule direction, bien sûr, c'est Jésus-Christ, mais c'est la croix. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu pour délivrer, pour bénir, mais pour nous racheter, pour que nous puissions obtenir le pardon de notre péché, parce que sur la croix, lui qui était juste, lui qui n'a jamais péché, a été cloué, crucifié, pour que nous puissions entendre à un moment donné dans notre existence, tout est accompli. Pour ton péché, pour ta vie, tu peux obtenir le pardon. Cet après-midi, ne passons pas à côté. Bien sûr, vous êtes libres. Bien sûr. Le psaume, la fin du psaume 143 nous donnera la conclusion de ce passage, de ce que le démoniaque, cette personne démoniaque, a vécu. La Bible nous dit que cette personne qui était indomptable, c'est un mot fort, cette personne qui était quasi assimilée à un animal plus qu'à un être humain, la Bible nous dit que cet homme va être assis, vêtu et dans son bon sens. Rends-moi la vie. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Retire mon âme de la détresse. Et la fin du verset 12 de ce psaume 143, fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Ce psaume, et je le répète, est signé David, mais je pense qu'il aurait pu être signé par cet homme qui était lié depuis tellement de temps. Rends-moi la vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un cet après-midi qui pourrait faire cette prière ? Seigneur, sans toi, ce n'est pas la vie. Seigneur, sans toi, je ne peux pas me sortir de ma détresse. Seigneur, je suis sans cesse oppressé. Viens dans ma vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Et laissez-moi vous dire que celui qui s'est appelé la résurrection et la vie n'attend qu'une seule chose, c'est de remplir quelqu'un. C'est d'inonder quelqu'un de son amour pour que nous puissions recevoir cette certitude que notre nom est inscrit dans le livre de vie, que nous sommes sauvés pour l'éternité, que plus jamais nous serons hors de contrôle, plus jamais nous serons là dans des moments terribles où il semblerait que nous sommes tels des morts. C'est plus possible parce que Jésus est la vie et cette vie, il veut nous la donner cet après-midi. Là, je terminerai juste par la réaction de certaines personnes. Vous savez, on peut réagir de différentes manières à l'Évangile. Cet après-midi, vous pouvez réagir de plusieurs manières, bien sûr. Personne ne peut vous forcer, personne ne va vous dire quoi faire, personne ne va vous obliger, personne ne va vous mettre une pression quelconque. On est tous libres. Et vous savez ce qu'il est écrit, je reviens dans Marc chapitre 5, le verset 17, certaines personnes, lorsqu'ils vont voir cela, vont commencer à supplier Jésus de quitter leur territoire. C'est quand même une conclusion qui est dramatique. C'est quand même une conclusion qui a des terribles conséquences dans une vie. Bien sûr, la réunion va se terminer dans un quart d'heure. Vous pouvez rentrer en disant, Seigneur Jésus, quitte ma vie, quitte mon territoire, je ne te veux pas. C'est possible. Et on voit là la suite, la délicatesse du Seigneur Jésus qui dit, mais ce n'est pas écrit, mais on comprend puisqu'il est écrit, il monta dans la barque. Jésus, lui, s'en va. Jésus ne va pas nous violenter, il respecte ce que nous sommes, il respecte notre identité. Mais quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand même, est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on s'attarde un instant sur ce que Jésus nous offre ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on dise, Seigneur, ne t'en va pas, reste un peu avec moi pour quelques dizaines et dizaines d'années. J'ai besoin de toi. On est libre, chacun est libre cet après-midi. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Je sais qu'il y a un chant de prévu. Mais alors qu'on est tous là devant le Seigneur, on a entendu, on sait, le Seigneur sait quelle est notre vie, où nous en sommes. Il sait ce qui se passe dans notre cœur, il nous connaît. Même si toi qui es dans ce lieu, tu n'as jamais fait attention à Jésus, tu n'as jamais fait attention à la parole de Dieu, laissez-moi vous dire que Jésus vous connaît. Si vous êtes là, si vous avez pris la peine de venir, c'est parce qu'il y avait un rendez-vous prévu par Dieu pour que vous puissiez entendre ce message de l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire, qui nous offre le pardon de tous nos péchés. Son sang a coulé pour que nous puissions être pardonnés, purifiés et marcher en nouveauté de vie. Si c'est cet appel que tu ressens dans ton cœur, ne résiste pas, repens-toi. Le message de la parole de Dieu, c'est un message d'amour, un message de grâce, mais nous avons notre part à faire. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions expérimenter la repentance pour qu'il puisse demeurer en nous. Seigneur, merci pour cette invitation, merci pour ce que tu veux faire cet après-midi. Nous le croyons que tu es là par ton esprit. Nous croyons que tu peux pardonner, délivrer, guérir encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci parce que tu te plais à nous faire du bien. Et nous voulons être là devant toi d'une manière solennelle, en prenant, Seigneur, ta parole d'une manière personnelle, en prenant cet appel d'une manière personnelle. Merci, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen.